Europe 1.
Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Quand l'humour vole au secours de l'info, vous écoutez l'équipe est sauvage. Deux heures de bonne humeur au cœur de vos journées confinées, entre les mails à traiter, le linge à repasser et les gosses à supporter.
Oh non, les enfants, attention, ils crichent, ils les écrasent.
Respirez, on est là. Et notamment ma fidèle complice Eva Rock qui vous dira tout à l'heure devant quel programme se détendre ce soir, n'est-ce pas Eva?
Oui, avec une série fiction et une série documentaire que j'ai adoré, vous allez voir.
En attendant, je vous présente les deux nouveaux concurrents qui nous ont rejoints pour tenter de décrocher le prestigieux titre de chroniqueur du jour. Le premier est un journaliste hybride, mi-économie, mi-people. Même si ces derniers temps, avouons-le, sa passion pour les têtes couronnées lui est un peu montée à la tête, puisque voici ce qu'il déclarait encore aux stagiaires juste avant le confinement.
Qui d'entre vous est prête à s'envoyer en l'air avec un prince de sang, fils du roi d'Angleterre?
Bonjour Emmanuel Dutheil, my lord.
Ah bah, je vous avais pas entendu depuis longtemps, mais ça m'avait pas manqué.
Hein. Nous, ça nous avait manqué.
Alors Manu, outre votre goût pour les grandes ce monde, vous êtes aussi chef du service économie d'Europe 1 et aujourd'hui, vous nous parlez d'un des rares gagnants de la crise, le paiement sans contact.
Oui, je ne sais pas comment vous faites vous maintenant, Mathieu, quand vous allez chez le boulanger ou quand vous allez faire quelques courses pour faire un petit peu d'exercice. Je pense que comme beaucoup, vous préférez payer en carte bancaire plutôt qu'en monnaie, parce que la monnaie, on a entendu dire que le Covid pouvait être dessus. Il y avait pas mal d'inquiétudes autour de ça. Et le paiement sans contact, il n'y en a pas beaucoup, mais l'un des grands gagnants de cette crise.
C'est sûr. Face à vous, Emmanuel, virtuellement bien sûr, un journaliste très pris, qui avant qu'il ne désactive le correcteur automatique sur son iPhone, m'envoyait parfois de drôles de messages quand je lui demandais s'il était dispo.
Désolé, je dois m'occuper de mon vagin.
Bonjour Anis Mbida. Vous l'avez enlevé le correcteur, ça prête à confusion parfois.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Vous êtes Anis, notre expert nouvelle technologie, et cet après-midi, vous avez une bonne et une mauvaise nouvelle, une good et une fake news.
Oui, on va décrypter une fake news et donner une bonne nouvelle. Donc non, il n'y a aucun rapport entre la 5G et le coronavirus. Et oui, on va enfin pouvoir prêter des films achetés sur Amazon, iTunes, Google et autres plateformes numériques.
Mais ça, c'est une très bonne nouvelle.
Comme avec nos bons vieux DVD. Le partage des films en VOD avec Mbida ou le triomphe du sans contact avec Dutheil, quel sujet vous intéressera le plus? Nous le saurons juste avant 18h. En attendant, c'est l'heure de prendre des nouvelles de votre confinement. Comment ça se passe en ce 30e jour? Vous nous envoyez vos messages directement sur l'adresse mail d'Eva Rock, eva.rock@europe1.fr.
Léonore, écrivaine, confinée dans le 12e arrondissement avec mon fils, mon nouvel amoureux et le chat. Cette semaine, mon fils est avec son père. Et hier, il faisait tellement beau qu'avec mon amoureux, on s'est dit que c'était le moment d'aller à la plage. Alors on a ouvert les baies vitrées en grand, le soleil rentrait dans le salon, il faisait vraiment très chaud. On est allé chercher des serviettes de bain, moi j'ai pris un pareo. On s'est mis en maillot de bain parce que tout nu, c'était pas pareil, il fallait être en maillot de bain. Sur son téléphone à lui, on a trouvé le bruit des vagues. Et sur le mien, le Trio America, un groupe colombien des années 60 avec guitare et belle voix d'homme. Et je vous jure qu'on y était. On était à la plage. C'était merveilleux. Et on s'est dit que dans ce confinement, maintenant, on manquait juste les cigales. Alors la prochaine fois, on trouvera un téléphone à cigale et on retournera à la plage.
C'était Léonore qui nous envoie régulièrement des messages qu'on embrasse. On embrasse avec son amoureux, on embrasse aussi le fils et le chat. Et on a une autre jeune fille qui nous a envoyé un message, Mathieu. Elle est en quatrième au fameux lycée Jean Massé, au collège pardon, à Villeurbanne. Mais cette fois-ci, Tatiana est en quatrième et elle a un petit message pour nous.
Pour moi, ce n'est même pas étouffant. Au contraire, je n'ai jamais aussi bien respiré. Surtout, quand à l'heure où il faudrait dormir, j'ouvre la fenêtre et observe les étoiles magnifiquement brillantes. Elles me renvoient la lumière du passé pendant que je ressasse mes souvenirs. En effet, ma vie, nos vies, qui semblent mises entre parenthèses, m'empêchent de me projeter. Je ne veux que regarder derrière moi. Il y a tous ces rires, ces moments insignifiants, ces paroles qui me reviennent par flash et qui éclairent mes journées. Il y a aussi tous ces petits bonheurs qu'on installe en même temps que ce nouveau train de vie. Je m'efforce de résister à l'installation d'une routine pour avoir ce luxe de vivre des journées sans lendemain. Celle qui me prouve que je ne suis pas une adolescente au cerveau grillé par les écrans. Celle qui m'apporte le goût des choses simples.
Voilà, les choses simples par Tatiana, qui est en quatrième au collège Jean Massé de Villeurbanne et qu'on remercie énormément pour ce message.
On vous remercie
bien,
tous
vous avez vu ça
pour vos gentils messages, effectivement. Ouais. Les enfants écrivent très très bien. Et comment ça se passe chez vous, les amis? Parce que j'aimerais vous entendre là-dessus. Emmanuel Dutheil, par exemple, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu.
Mais oui.
Alors plutôt que de vous foutre de ma gueule,
on s'est pas eu depuis le début du confinement.
Mais oui, c'est la première fois que vous êtes avec nous. Comment ça se passe pour vous ?
Bah, ça se passe plutôt bien. Je fais partie de ces Parisiens très méchants qui ont quitté la capitale pour aller s'exiler au fin fond de la Vendée, dans un très joli endroit qui s'appelle Notre-Dame-de-Mont, qui est ma maison de cœur où je viens depuis que je suis tout petit, dès que j'ai deux minutes. Au moins pour cela, le confinement me permet de profiter de cet joli endroit dans lequel je n'ai jamais l'occasion d'aller, en tout cas pas suffisamment. Et après, comme tout le monde, on a envie d'aller boire des bières en terrasse avec des copains, non ?
Bah oui.
Oh ben ça, mais on a envie, mais c'est pas encore pour tout de suite. Qu'est-ce que vous devenez, Anissa Mbida ? Vous survivez ?
Je suis toujours planqué entre la cuisine, le placard à balai, la chambre.
D'habitude, c'est l'amant qui est dans le placard à balai, Anissa. Hein.
Mais non, mais c'est l'endroit pour trouver un petit peu de calme. Vous savez, les enfants, ils sont en train de jouer. Dans ce moment, ils sont en train de faire un... Qu'est-ce qu'ils faisaient tout à l'heure ? Ils faisaient des galipettes. Hier, ils faisaient de la boxe. Donc ça fait un peu de bruit, j'essaie de m'isoler pour faire moins de bruit, j'ai trouvé le placard à balai ou la chambre. Quoi.
Moi chez moi, on joue au Uno avec les enfants, chez les Mbida c'est sportif, quoi. C'est boxe ou galipette. Confiné mais pas déprimé, l'équipée sauvage continue.
Europe 1.
À l'heure où le gouvernement demande à Amazon de se limiter pour ses livraisons aux produits de première nécessité, il continue d'y croire.
Bon, j'ai essayé de me faire livrer une paire de skis, la livraison pouvait avoir lieu mardi prochain.
Non.
Emmanuel Duteil, chef optimiste du service Léco, nous explique ce qui va changer pour nos paiements sans contact dans les jours qui viennent, juste après Starlight. Ça va faire du bien. Superman Lover sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
I'm not afraid to die.
Superman Lover, c'était Starlight sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est un des économistes les plus pointus d'Europe 1, voire de sa génération. À côté de lui, Axel de Tarlet est un nain, Nicolas Bétou un débutant. Ses éditos conjuguent toujours précision et prise de risque, comme le dernier.
Personne ne connaît le réel impact de cette épidémie, parce qu'il y a une certitude, elle est importante, c'est qu'il va être très important.
Mais enfin...
Ah non, vraiment, ce n'est pas pour rien qu'Emmanuel Duteil est le chef du service économie d'Europe 1. Et cet après-midi, c'est un sujet très concret que vous nous proposez, Emmanuel, sur le paiement sans contact, grand gagnant, évidemment, de cette crise qui frappe le monde.
Oui, hein, je ne sais pas si nos auditeurs sont des adeptes. Tout à l'heure, Mathieu, dans le teasing, vous disiez que vous aussi, vous aviez changé vos habitudes. Mais c'est vrai que ça cartonne en ce moment. Et la raison est toute simple. Hein, c'est une des conséquences totalement inattendues du coronavirus. Pourquoi ? Bah, parce que, tout simplement, je pense que vous êtes un petit peu comme moi. Vous voulez moins payer avec vos pièces et donc vous utilisez de plus en plus votre carte, y compris chez des commerçants chez qui vous n'aviez pas l'habitude de le proposer. C'est un pharmacien, jusque-là on n'y allait quand même pas si souvent que ça, mais par exemple
le boulanger.
Alors exactement, et c'est vrai que les chiffres sont impressionnants, on note une vraie explosion hein, des transactions, notamment du côté des boulangers. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est demandé par les clients, mais c'est aussi, et je pense que vous en êtes tous rendu compte, hein, nos auditeurs autour de la table virtuelle de cette équipe est sauvage, mais les commerçants, les boulangers le proposent aussi, hein, vous voulez payer en sans contact. Bon, je vais vous donner un chiffre que j'ai trouvé impressionnant, les retraits aux distributeurs ont chuté de 50% depuis le début de la crise, donc vous voyez bien que pour payer, on utilise de plus en plus notre carte. Mais en revanche, bah, on se rend compte que maintenant, le plafond de 30 euros, hein, parce qu'on est bloqué à 30 euros pour le paiement sans contact, est jugé comme souvent trop limité.
Et oui, par exemple, Eva a acheté l'autre jour 250 grammes de caviar et elle était extrêmement limitée par ce plafond du sans contact.
C'était
Est-ce
pour
qu'il
votre
faudrait
cadeau.
Pas le relever.
Oui, ça va être décidé sûrement là d'un jour à l'autre. Hein. L'idée, c'est de passer ce plafond à 50 euros. Et c'est vraiment une des conséquences là, totalement inattendues du coronavirus, parce que je vous disais qu'on paye de plus en plus par carte bancaire. Mais aussi, l'une des conséquences, c'est qu'on va, là encore, hein, on le vit tous, on va de moins en moins faire nos courses. Donc à chaque fois, on essaye de faire un plus gros plein que ce qu'on pouvait faire avant. Et puis, on va moins à l'hypermarché, en tout cas pour ceux qui peuvent le faire dans les grandes villes. On va plus à la petite supérette du coin, aux petits trucs de proximité, parce que on veut pas faire trop de distance et on veut quand même se presser à faire ses courses. Je vais vous donner quelques chiffres qui montrent qu'on dépasse maintenant très vite ce plafond de 30 euros. Avant la crise, les paiements de plus de 30 euros, c'était environ 30% des paiements. Là, depuis quelques jours, on est passé à quasiment 45% des paiements qui sont aujourd'hui des paiements de plus de 30 euros. Un autre chiffre que j'ai trouvé impressionnant, alors là on pourrait pas obligatoirement payer avec sa carte, mais quand même ça montre la façon dont la consommation évolue. Dans les hypermarchés, le paiement moyen avant la crise c'était 45,33 €. Et bien maintenant, il est de 74,56 €.
La question c'est qu'est-ce qu'on attend pour relever ce plafond, Emmanuel ? D'après ce que vous nous dites.
C'est vraiment la bonne question. Alors, faut voir que déjà, les pouvoirs publics poussent beaucoup, hein, notamment le ministère de l'économie voudrait vraiment qu'on passe à 50 euros. Mais pour ça, il a fallu quand même brusquer les banques, parce que les banques disent, oh là là, c'est trop compliqué à faire, et puis en ce moment, nos équipes sont en télétravail, comment voulez-vous que l'on y arrive? Alors, elles ont quand même cédé, elles ont quand même accepté au moins de regarder comment on allait faire. Et ce qui peut paraître, sur le papier, de se dire, on va aller passer de 30 à 50, faut quand même pas avoir fait la plus grande école de France. Bah si, c'est très compliqué. Pourquoi?
Ah bon?
Parce que faut régler deux problèmes techniques. Le premier, c'est qu'il faut réussir à distance à faire évoluer le plafond chez les commerçants, vous savez, sur les terminaux bancaires. Il faut également modifier nos cartes bancaires. Il faut les modifier à distance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était passé de 20 à 30 euros, il avait fallu changer les cartes bancaires. Ça avait pris 3 ans.
Oh,
bon,
là,
on va quand même
d'accord.
essayer de faire ça en un petit peu moins longtemps, parce que
d'accord.
j'espère bien que d'ici 3 ans, on pourra quand même payer des bières en terrasse avec nos potes. Donc,
50
l'idée, c'est de faire
bière.
Ça à distance. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, il faut réussir à changer ça à distance. Et pour le vérifier, les banques ont fait des tests ces derniers jours, notamment l'une des plus grandes banques de Paris a fait son test vendredi. Le test s'est bien passé, m'a-t-on dit. Donc, on semble quand même s'orienter vers cette hausse de ce plafond. Je vous dis, hein, la décision devrait être bientôt prise.
Oui, vous n'allez pas partir comme ça. Vous allez nous donner une date, un horizon, Emmanuel, pour ce paiement sans contact à 50 euros.
Oui, alors, logiquement, la décision doit être prise d'ici à la fin de semaine. Et de ce que l'on m'a dit, il faudrait quand même un mois pour que ce soit effectif. Parce qu'on a beau faire ça à distance, bon, il faut quand même un petit peu préparer les esprits. Alors là, je suis sûr que vous êtes en train de calculer un mois.
Mais
oui,
fin
c'est
du confinement,
pour prendre la bière avec les copains.
La fameuse.
Mais
même si ça arrive que dans un mois, on en a besoin parce que cette crise va au moins avoir une évolution. Certes, nos habitudes de consommation vont changer. On va mettre du temps à avoir envie de s'agglutiner dans un centre commercial, d'avoir envie de s'agglutiner dans un hypermarché. Donc, on va continuer à vouloir payer comme ça en proximité et avec le sans contact parce que, mine de rien, on perd un peu l'habitude d'utiliser les pièces et puis... Même si on a perdu l'habitude de ce qu'on avait peur, bon, c'est quand même plus sympa, plus pratique de payer en sans contact. Surtout que le sans contact était déjà en train d'exploser. Hein. L'an dernier, en 2019, près de 4 transactions par carte sur 10 étaient déjà en sans contact. Ça fait 3 milliards 300 millions de transactions. En 2014, qui était l'année juste après le lancement du sans contact, il y en avait que 64 millions.
C'est énorme.
La victoire du sans contact.
Vous avez manqué avec tous mes chiffres. Hein.
Oui, non, pas du tout.
Tous vos chiffres, chers. Et non, mais il nous manque surtout, on a hâte de prendre des bières avec vous, puisqu'on a bien compris qu'au-delà des chiffres, votre obsession, c'était surtout la bière, Emmanuel Duteil, votre passion secrète. Et pour ceux qui en douteraient encore de votre flair économique et social dont on parlait tout à l'heure, je rappelle votre déclaration du 7 mars dernier.
Mais moi, j'aurais pas peur d'aller en Toscane en vacances en avril. Hein.
Il avait flairé le truc.
Europe 1.
À suivre, elle, contrairement à la plupart des commerçants, elle n'accepte pas le sans contact. En revanche, un paiement en nature ne la dérange pas.
Je l'ai fait samedi matin, je peux plus marcher.
Eva Rock arrive pour vous livrer sa sélection télé écran du soir. À tout de suite.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
À l'issue de ce 30e jour de confinement, il y a un constat qui s'impose dans les couples. Vivre ensemble 24 heures sur 24 nuit gravement au romantisme. Hier soir, par exemple, vous avez préparé un petit dîner surprise pour votre épouse. Vous aviez mis votre plus belle chemise, enfin celle qui était repassée, votre plus beau caleçon, enfin celui qui était propre. Pourtant, quand vous lui avez servi ce risotto aux asperges dans une ambiance tamisée, elle a déclaré, en levant à peine les yeux vers vous...
Faut que je me fasse le maillot, moi j'ai le foin qui déborde de la charrette. Et...
Foutu confinement.
C'est,
hein,
c'est du vécu, Mathieu ou...
Je vous en prie.
Ah bon, pardon.
Non, c'est de la pure fiction.
D'accord.
Heureusement, il y a une compagne qui ne vous décevra jamais, c'est la télévision. Et les écrans au sens large, si vous êtes polygame.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on regarde ce soir?
Alors, je vous propose une série fiction et une série documentaire au menu de nos écrans ce soir. La fiction est à découvrir sur le site mycanal.fr. En l'occurrence, il s'agit de la 4e saison de Better Things. Alors, c'est le quotidien de Sam, c'est une quinquagénaire, elle est comédienne de série B, elle est doubleuse voix de dessins animés aussi, et elle est mère divorcée de 3 filles. Son quotidien est assez rock'n'roll, hein, entre les enfants, les difficultés financières qui s'accumulent, les échecs de ses histoires d'amour. 4e saison, vous pouvez d'ailleurs les regarder sans avoir vu les précédentes. Hein. Sam vit toujours avec ses filles dont l'aînée travaille dans un resto, et elle vit aussi avec sa mère qui perd un peu la boule. Dans la version originale, Sam est incarné par Pamela Adlon, qui s'impose en fait par sa gouaille et sa voix éraillée. Vraiment, je vous la conseille en version originale, qui est totalement en adéquation avec ce personnage de femme très forte. Un personnage qui est en réalité le reflet à peine exagéré justement de Pamela Adlon, qui est à l'origine de cette série, écrite avec le talentueux Louis Siquet. C'est vraiment un numéro d'actrice remarquable, servi par des dialogues absolument ciselés et délicieux. Et puis la série, elle a un autre atout, celui en fait d'aborder quand même des questionnements sociétaux comme la dépendance des personnes âgées ou encore la sexualité des ados, qui sont les deux thèmes de cette 4e saison. Les 10 nouveaux épisodes sont à voir sur mycanal.fr. C'est vraiment une super série, c'est très attachant. Voilà, le personnage principal est fort bien décrit.
Et vous nous aviez promis aussi une série documentaire, Eva.
Vous allez adorer, Mathieu. Vraiment, j'ai pensé à vous. Direction Arte, c'est tous les soirs à 17h45, où vous, en fait, vous faites une séance replay sur arte.tv pour un voyage extraordinaire aux côtés de l'écrivain et aventurier Sylvain Tesson. En fait, il y a un an, il a choisi de partir sur les traces d'Ulysse, un voyage à bord d'un voilier pendant 2 mois pour revenir sur les lieux qui étaient décrits par Homère. Alors, les ruines de Troie, le Vésuve, Ithaque, le golfe de Naples, les îles éoliennes. C'est un périple qui est rythmé par des rencontres. Alors, il va rencontrer sur son parcours des vulcanologues, des botanistes, des chercheurs qui racontent avec lui ce qu'était la Méditerranée à l'époque des marins phéniciens. Et l'écrivain va distiller au cours de ses aventures et dans chaque épisode, à la fois des extraits de l'Iliade et de l'Odyssée. Et puis, il va revenir sur l'histoire des dieux et des déesses grecques, comme la légende des sirènes. Et vous risquez d'être surpris, Mathieu.
Et alors, en fait, dans l'Odyssée, les sirènes, c'est des oiseaux. C'est plus tard, dans des traditions, que d'autres poètes en feront des créatures aquatiques. Mais il ne faut pas du tout imaginer qu'une sirène, c'est une jeune fille scandinave qui sort de l'eau en bikini. Non, elle ricane, elle nous observe, elle nous scrute, elles sont là.
Prêtes à attaquer.
Prêtes à attaquer et prêtes à t'envoûter, ce sont des, à t'ensorceler.
Cette série documentaire est un bonheur. C'est un bonheur d'intelligence, de découverte, de bouillonnement culturel. Sylvain Tesson est capable de réciter à la fois les vers d'Homère, puis d'interviewer avec curiosité des experts, puis d'établir des parallèles entre cette histoire et notre monde moderne. Il le fait avec érudition, bien évidemment, et beaucoup d'humour. Et à chaque séquence, vous allez apprendre et vous allez aussi vous émerveiller de cette nature qui est si bien filmée par le réalisateur Christophe Relat. C'est vraiment un coup de cœur pour cette série qui est intitulée Dans le sillage d'Ulysse avec Sylvain Tesson. Et c'est à voir sur arte.tv.
On termine Eva avec le mix préparé par Sébastien Bordenave.
Et oui, avec aujourd'hui 3 séquences glanées sur les réseaux sociaux. Laurie Tillman, devenue ma coach sportive sur Instagram. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. L'animateur Jimmy Fallon et
Essayez
Sting.
Essayez qui Laurie Tillman ou le sport avec Laurie?
Non, avec le sport avec Laurie Tillman. Puis vous revenez me dire si vous avez mal aux jambes ou pas. L'animateur Jimmy Fallon et Sting qui chante avec des musiciens de l'émission de Fallon équipés de ciseaux, de baskets, d'un coussin et d'un jeu de puissance 4. Et puis enfin, une bonne idée de Franck Dubosc.
Moi, j'ai une idée pour le 11 mai. Puisque les écoles vont réouvrir, mais pas les restaurants, pourquoi on n'installerait pas des petites tables avec des pizzas et un bon verre de rosé sous le préau? Puisque ça a l'air plus safe. The subject
of schoolgirl fantasy. Bon, ce petit exercice est extrêmement simple. Chaque fois que la musique va dire « Bring Sally up », vous êtes debout. Et à « Bring Sally down », on est en position squat. Entendu ? On vous montre. Démonstration. Bring Sally up, bring Sally
down. Je l'ai essayé, j'y suis arrivée. Hein.
Et alors ?
Eh ben, j'ai bien mal aux jambes le lendemain, je vous conseille. C'est hyper bien à faire, c'est génial.
Pour, quand on a un niveau avancé, c'est pas pour les débutants.
Oui, peut-être, oui, peut-être. Je sais pas, je peux pas, c'est pas moi qui peux le dire.
Non, parce que vous êtes assez sportive.
Oui.
Merci pour ce petit mix. On remercie également Sébastien Bordenave. Voilà, plein d'idées pour occuper votre soirée, même vos journées, avec le sport de Laurie Tillman.
Europe 1.
Une fake news et une good news. Non, la 5G ne favorise pas le coronavirus, mais oui, on va désormais pouvoir partager des films achetés en VOD comme nos bons vieux DVD. Anis Mbida, notre expert innovation, arrive. Et pour vous situer un peu, son talent pour l'informatique est inversement proportionnel à son talent vocal. C'est vous dire si le gars est balèze en informatique. Il arrive juste après Pink Martini, Brésil sur Europe 1. Brésil. C'était Pink Martini sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Un contre tous et tous contre un. Vous écoutez l'équipe est sauvage. Le grand tournoi qui chaque après-midi oppose les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G et en ce moment de votre quotidien. Or, notre dernier concurrent du jour est une pointure, un ponte dans son domaine. Alors oui, c'est vrai, pour tenter de l'affaiblir, de saper sa crédibilité journalistique, certains de ses collègues aiment à rappeler que dans sa jeunesse, il a tenu le premier rôle dans certains films pour adultes très très explicites, notamment le classique de Marc Dorcel.
Trouve-moi dans la salle de réu.
Mais tout ça est bien loin. Aujourd'hui, Anissé Mbida s'est reconverti avec succès dans l'informatique. Et cet après-midi, Anissé, vous nous livrez une good news et une fake news.
Oui, oui, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. On commence par laquelle ?
La mauvaise.
Alors la mauvaise, en tout cas c'est une mauvaise nouvelle pour les amateurs de théorie du complot, ben, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les ondes de la 5G et le coronavirus. C'est une fake news, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Alors vous allez comprendre, et on va faire un petit rappel des faits. Vous avez peut-être entendu parler, la semaine dernière en Angleterre, il y a eu des dizaines d'antennes 5G qui ont été incendiées ou vandalisées. Et cette semaine, c'est le même phénomène qui est en train de se produire et qui est exporté, on va dire, aux Pays-Bas, où là encore, on a saccagé des antennes 5G des opérateurs. Et l'explication, eh bien, c'est qu'il y aurait une théorie complotiste qui voudrait qu'il y ait un lien entre la pandémie de coronavirus et le déploiement de la 5G. Non. Et ceux qui colportent cette rumeur, ils en veulent pour preuve que la ville de Wuhan, en Chine, était elle aussi en Mais plein non. déploiement de la 5G quand l'épidémie a commencé. Bref, ils veulent dire qu'en fait, que des ondes auraient facilité, voire provoqué, la contamination au virus. C'est évidemment une théorie qui est colportée en ce moment sur les réseaux sociaux par tous les personnes qui sont des anti-5G aussi, ou des anti-ondes. Et donc, depuis, les autorités sont obligées de faire des appels au calme, avec un argument choc, parce que vandaliser les antennes 5G, comme on ne peut pas distinguer une antenne 5G de 3G, de 2G, ça veut dire handicaper tout le réseau cellulaire, qui permet notamment aux familles de rester en contact, et surtout aux médecins
d'intervenir.
En service d'urgence.
Ouais, c'est la 5G de la connerie quand même.
N'a pas de limite. Mais donc, il n'y a aucun lien, vous pouvez nous rassurer, entre les ondes et la propagation du virus. On va être très clair là-dessus. Aucun lien.
Écoutez, moi, je peux que vous renvoyer vers les différentes études. Il y en a une dizaine, il continue d'y en avoir, et à chaque fois, elles disent toutes la même chose. Dans des conditions d'usage normales, on n'a pas démontré de danger pour la santé des différentes ondes. Mais vous savez, c'est exactement comme le glyphosate dans l'alimentation. On a beau démontrer qu'il n'y a pas de risque majeur, il n'y a pas de risque majeur du glyphosate pour l'alimentation, puisqu'il y a des niveaux qui sont extrêmement faibles, mais il y a toujours quelqu'un qui va détourner une étude qui a été faite dans des conditions extrêmement particulières, et puis insuffler ce petit doute. Puis comme on aime bien avoir peur, on finit par y croire. Et souvent, tous ces colporteurs de mauvaises nouvelles ou de fake news, ils ne le font pas pour des raisons sanitaires, parce qu'il y a quand même beaucoup plus dangereux aujourd'hui que les ondes et le glyphosate pour la santé. Je pense à l'alcool de notre ami Emmanuel Duteil, à la voiture. C'est quand même beaucoup plus dangereux. Mais souvent, en fait, ce n'est pas pour des raisons sanitaires, c'est pour des raisons politiques. Et là, en l'occurrence, ceux qui sont derrière ces fake news, ce sont des gens qui sont contre l'usage du téléphone portable, qui sont contre la société numérique et qui voudraient qu'on arrête d'utiliser nos téléphones, de se connecter sur Internet, d'utiliser les réseaux sociaux, etc. Et quelque part, les ondes, c'est une espèce de bouc émissaire pour...
C'est paradoxal parce que c'est quand même des gens qui utilisent les réseaux sociaux justement pour propager leurs nouvelles.
Pour propager les fake news.
Mais non, ouais. ils le font sur des ordinateurs fixes.
Oui, c'est ça.
Internet fixe.
Alors,
il y a moins d'ondes.
Une bonne nouvelle maintenant à Nice pour compenser un peu.
Alors ça, c'est toujours pour les adeptes, c'est une bonne nouvelle cette fois pour les adeptes du numérique, puisqu'on va enfin pouvoir prêter des films qu'on a téléchargés sur des plateformes comme on prête aujourd'hui un DVD physique. Alors, c'est un petit peu compliqué, la méthode est un petit peu compliquée. Il faudra d'abord créer un compte sur une plateforme qui s'appelle Movies Anywhere. C'est un service qui a été créé par Disney, mais qui a fini par ramener vers lui tous les grands studios de cinéma français, et qui va, enfin en français et même mondiaux, et qui va permettre de synchroniser tous les films qu'on a achetés sur iTunes, sur Amazon Vidéo, sur Google Play, et même, vous savez, les copies numériques, les copies digitales de DVD. Vous avez souvent un petit autocollant sur son DVD, et si vous voulez la copie digitale, ou sur son Blu-ray, on va taper un code directement sur un site et on télécharge la version numérique. Et bien tous ces fichiers numériques qu'on a un peu partout, ils peuvent être synchronisés sur la plateforme Movies Anywhere. Et donc, la personne à qui on veut prêter le film, il faudra qu'elle crée un compte sur cette plateforme.
Ah, on ne peut pas lui faire un cadeau surprise, c'est ça le problème?
Ah oui, non. Ouais.
C'est ça qui met le fichu.
Non, on ne peut pas lui faire un cadeau surprise. Et une fois qu'il a créé son compte, eh bien, on peut lui prêter jusqu'à 3 films par mois, rien qu'avec son adresse email. C'est-à-dire qu'on donne son adresse email de la personne.
Ah, ensuite, c'est facile.
Et ensuite, c'est facile. Alors, c'est même mieux qu'un DVD parce qu'on peut partager le même film à trois personnes et continuer à le regarder à la maison. Ce qu'on ne peut pas faire avec un DVD, par exemple.
Ah bah oui. Évidemment, alors, évidemment
quelques,
c'est mieux.
Il y a quelques petites restrictions quand même. On n'a que 14 jours pour le visionner. Et une fois qu'on a commencé, on n'a que 72 heures pour finir le film. Donc, c'est petites restrictions, mais ça reste raisonnable. Malheureusement, il n'y a pas de téléchargement. Donc, on est obligé d'être connecté. Hein, c'est forcément du streaming quand on regarde la vidéo. Et puis, tous les titres ne sont pas disponibles. On ne peut pas prêter n'importe quel titre. Aujourd'hui, il y a un catalogue à peu près de 7000 titres qui sont disponibles.
Oh, bah quand même.
Oui, bah ça vient de commencer. Hein. 7000 titres qui sont disponibles au partage, et c'est 80% du catalogue qui peut être partagé. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que les dernières nouveautés, hein, vous savez, tous les films qui viennent juste de sortir en DVD, ils sont pas partageables tout de suite. En fait, c'est à la discrétion des studios. Et donc, il y a toujours ce petit problème avec les studios qui disent, bon, voilà, vous pouvez partager votre film, vous pouvez le prêter, mais qu'au bout de 3 mois et pas tout de suite à la sortie du film.
Et Anissa, c'est maximiser pour quand pour le grand public, pour nous?
Ça va arriver d'ici septembre pour la rentrée. Ça va être prêt pour le moment. C'est en bêta aux États-Unis et ça arrive en Angleterre et pour nous en France, ça arrivera normalement à partir de la rentrée. Moi, je trouve que c'est quand même un bel effort à saluer parce que aujourd'hui, moi, je recommande à tout le monde de continuer à acheter des biens physiques, hein, que ce soit pour les vidéos, les livres, la musique. Il vaut mieux acheter des biens physiques parce qu'au moins, on peut les prêter, on peut les revendre, on peut en faire ce qu'on veut, on peut les donner à quelqu'un. Alors que sur les fichiers numériques, on est extrêmement limité. Donc, c'est quand même intéressant qu'il y ait des initiatives comme ça qui nous permettent de faire un peu la même chose avec les produits numériques.
Merci beaucoup Anissa Mbida pour cet éclairage de l'avenir proche. Un peu déçu qu'on n'ait pas parlé de vos fameuses petites fleurs, mais quand même, c'était intéressant.
Europe 1.
Et si on se replongeait dans l'époque bénie de la non-distanciation sociale? Cette époque où les stars défilaient à notre micro, des stars qu'Emmanuel Duteil accueillait par un sonore
« Wesh, la bienvenue à mes croupes
!» Quelques moments auront couleur de notre émission à suivre.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
L'équipée sauvage sur Europe 1,
16h-18h,
Mathieu Noël.
Ils étaient au cœur de notre émission du temps d'avant le confinement, les invités. Des vedettes triées sur le volet pour leur talent, leur sympathie, leur érudition, parfois les trois à la fois. Comme cet après-midi de novembre où nous recevions l'écrivain Daniel Picouli qui avait pu mesurer le travail fourni par Eva Rock en amont de l'émission.
Mais est-ce que vous aimeriez faire partie d'un jury ou pas du tout?
Mais moi je fais partie de 4 jurys.
Il ne vous en avait pas tenu rigueur, Eva.
Non, c'est vrai.
Et nous avions passé un merveilleux après-midi, souvenez-vous.
J'imagine qu'on vous parle quand même souvent de Café Picouli, parce que moi, on me parle toujours de cet amour, alors que ça fait déjà 3 ans que j'ai arrêté. Si c'était ce soir, donc j'imagine que Café Picouli, les gens pensent que ça existe toujours.
Voilà,
c'est à quelle heure maintenant Café Picouli?
Bah, c'est là, c'est pareil. Là, par exemple, le côté condoléances, bon, bah, là, c'était bien. Pourquoi vous avez arrêté voilà. Mais bien sûr, parce que ça a été un grand moment que j'ai adoré et que j'ai adoré arrêter. C'est ça qui paraît dingue, c'est que c'était une émission qui me prenait tellement, voir les films, lire les. Moi, je faisais tout, j'allais voir les pièces de théâtre et tout, et je ne pouvais plus écrire. Et je m'étais dit, quand ça s'est arrêté, je me dis, Daniel, t'as plus d'excuses maintenant, il y a fait 20 ans que tu dis que tu veux faire du théâtre, t'en fais, j'ai écrit une pièce et je l'ai joué et je dois ça à Café Picouli, à l'arrêt de Café Picouli. Donc pour moi, ce n'est pas un brassard de deuil, hein, c'est aussi une belle expérience qui s'est terminée par une très belle expérience.
Et ben,
comment vous étiez retrouvé à la télé? Qui c'est qui vous avait repéré? C'était Catherine Barma.
À la télé, pour Café Picouli, c'est Ardisson et Barma. Moi, je croyais qu'ils avaient vu mes émissions sur France.
Oui.
Pas du tout.
Ah non,
pas du tout comme les autres n'avaient jamais vu. Ils disent non, t'es un bon client. Voilà, quand je passais sur les plateaux, ça se passait bien. Ils m'ont dit, toi, on a l'impression que tu peux animer une émission. Et le fait est, surtout qu'à l'époque, on était en concurrence avec De Morand qui avait une autre émission. C'était le moment où, de façon, je trouve très intelligente, la télé mettait en concurrence des programmes. Et puis celui qui, entre guillemets, l'emportait en termes d'audience ou de qualité, perdurait. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Mais sinon, avant, je suis arrivé à François, parce que François avait, j'allais dire, un prix littéraire, c'est-à-dire le prix de François. J'étais le président. Je leur ai dit, mais c'est, vous me faites un prix littéraire, mais il n'y a pas d'émission littéraire. Ah oui, c'est vrai. Ça me pique la parole. Après, ça s'appelle tropisme. On a fait ça pendant des années. Donc, c'est des choses un petit peu improbables qui vous amènent à la télévision. Moi, j'ai jamais pu imaginer. Et c'est ça aussi la question de la diversité. Moi, quand j'étais un gamin dans ma cité, que je regardais la télé, je voyais pas de type qui avait ma tête. Donc, je voyais pas pourquoi un jour je serais moi un présentateur d'une émission littéraire. C'est ça aussi qui est important dans la diversité. C'est l'exemplarité.
Oui, montrer que c'est possible. Et
c'est possible.
Tout le monde à la télé.
Ça donne des envies, quoi.
J'aimerais savoir si c'est vrai cette histoire selon laquelle laquelle vous étiez un cancre à l'école. Vous vous racontez beaucoup ça et je me suis demandé si c'était pas par politesse vis-à-vis des jeunes qui nous écoutaient que vous aviez un peu exagéré cette cancritude.
Même pas. Non. J'étais un cancre au sens des années 60. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'étais ? J'étais le gosse qui faisait tout ce qu'il fallait pour passer juste et les portes se ferment derrière lui. J'ai des traces de portes dans le dos. C'est-à-dire, non, c'est tout. C'est-à-dire que moi, j'avais une optimisation de ma cancritude qui consistait à en faire le moins possible, mais pour passer. J'ai jamais redoublé une seule classe. J'avais des professeurs assez bienveillants qui étaient capables de me parler, de me tutoyer et de ne pas me considérer comme un abruti, même si je faisais 26 fautes trois quarts dans une dictée, qui était une espèce de minimum pour moi. Donc c'est simplement même un rapport qu'il y avait des enseignants, des cancres à l'époque, et qui a complètement changé. Aujourd'hui, j'aurais déjà 14 psys. J'aurais vu tout le monde. Tout ce qui commence par psy, je l'aurais vu. Parce qu'il fallait me soigner de quelque chose qui était la cancritude. C'est tout. Quand je dis ça, c'est uniquement pour essayer de faire modifier aussi le regard sur ces gosses qui sont quasiment martyrisés parce qu'ils ne sont pas aujourd'hui. On est quand même dans la performance aujourd'hui. Il faut être performatif pour un gosse tout petit. À la maternelle, déjà, on commence à les tester. Donc, voilà, je veux détendre les parents. Actuellement, il y a des inquiétudes terribles de la part des parents. Ils ont peur de sauter une marche et que leur petit génie qu'ils ont devant eux devienne un rêveur et peut-être même un écrivain. Quelle horreur.
Alors, Daniel Picouli, on a l'impression que pour beaucoup de gens, vous incarnez celui qui, d'une enfance socialement, en tout cas difficile, a su se propulser vers la réussite par le savoir. Est-ce que c'est comme ça que vous résumeriez votre trajectoire sauvée par la curiosité?
D'abord, la curiosité, oui, mais par les parents. Hein. Fondamentalement, moi, j'ai écrit des romans pour rendre hommage à des gens qui ont élevé 13 gosses, parce que je suis 11e de 13 d'un père ouvrier. Donc c'est cela. Moi, j'ai mon père, à 21 ans, il épouse ma mère qui est veuve, qui a 9 enfants. Il prend la mère, les 9 enfants, il en fait 4 de plus, et tout ça marche. Donc moi, je n'ai juste qu'à rendre hommage à ça. Ça m'ennuie aujourd'hui de même d'être un représentant de la banlieue, parce que c'est une banlieue qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le Picouli, on le met au même âge dans la cité qui était la sienne, et il ne deviendra jamais écrivain.
Mais pourquoi ?
Il deviendra peut-être même jamais professeur.
Pourquoi ce fatalisme aujourd'hui ?
Si on voit, moi, je suis entré, je vais vous donner juste un exemple, je suis entré dans la fac d'Assas pour faire mon droit sans le bac. Avec un BE, un brevet. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un bac S, on vous le dit même à la première journée d'orientation, il y a le portique qui sonne et vous dégagez. Moi, je suis un ancien prof, je vais dans les écoles, j'ai longtemps et toujours et encore maintenant milité pour que l'école soit ce qui va te permettre de sortir d'où tu viens. Et aujourd'hui, je suis un menteur, si je dis ça. Je suis un menteur. Donc, je ne me sens pas autorisé à le faire.
Europe 1.
À suivre, même quand il tente d'éviter les clichés, qu'il sait pertinemment qu'on lui tend un piège, il ne peut pas s'empêcher de tomber dedans malgré tout.
Et je ne vous le ferai pas avec un accent chinois à deux balles comme vous aimeriez me l'entendre dire.
Allez Olivier, allez, Olivier, allez, Olivier, allez, Olivier. Oh,
allez. Pas du tout. En ce moment, on ne peut pas parler comme ça. Hein.
Olivier Pouls, alias OSS118, arrive avec sa recette express, mais non moins épatante. Délice in extremis, c'est juste après Noé Pressoff, à nous sur Europe 1.
À nous dans le désordre, mais dans l'intransigeance. À nous qui devons mordre, et à nous dans l'urgence. À nous pas la mode, à nous dans le décor. À nous qui ne savons pas comment tenir nos corps. À nous dans l'univers, à nous dans l'infini. À nous dans le manque d'air, étonné d'être en vie. À nous dans l'écriture, et à nous sans les mots. À nous dans les ratures, et dans nos sacs à dos. Qui rêvons de forêt, qui rêvons de rivière. À nous dans le métro, qui cherchons la lumière. À nous qui poursuivons des perdants magnifiques. À nous dans l'illusion d'un chemin prophétique. À nous qui débordons dans les rires et les larmes. Qui ne faisons pas le deuil de nos jours de flamme. Quand on avait 10 ans, à grandes enjambées. Pédalant, pédalant pour l'éternité. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain. Avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons 1000 autres dunes avec nos défauts, nos faux pas. Avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À nous qui ne jouons ni aux pauvres ni aux fous. Parce qu'on en voit d'autres sombrer face à nous. On peut avoir un toit et une corde au cou. On peut avoir des droits et marcher à genoux. À nous qui nous parlons, nombreux dans le miroir. À nous qui voyons double, qui voyons blanc et noir. À nous les trop polis, qui n'en pensons pas moins. Qui tendons l'autre joue, mais qui serrons les poings. À nous qui passons pour des antipathiques. Et surtout pour des cons à chercher l'authentique. À nous dans les chansons d'il y a 40 ans. Mais à nous qui guettons devant, devant, devant. À nous dans les bobines, dans le grain maladroit. Dans les cartes postales et dans les feux de joie. À nous qui ne vendrons jamais nos vérités. À nous qui imploserons et ça ne saurait tarder. Nous marcherons marcherons mille autres lunes, mille autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons mille autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À nous qui fuyons là où ça parle en vain de télévision ou de magasin, à nous qui sommes là, qui tombons comme chacun, dans le panneau, dans les réseaux, dans le vide et le trop-plein, mais qui nous préparons à quand ce sera fini, quand il faudra se parler et redevenir amis, quand on pourra se dire tout est son contraire, sans que ça doive passer par une carte mère, quand on ne pourra plus savoir qui va où, savoir qui vaut combien et qui se fout de nous. À nous sans drapeau, à nous sans étiquette, à nous sans lingots, à nous sans paillettes, à nous dans nos verres d'eau ou dans nos cafés noirs, qui ne maquillons pas nos nuits de déboire, qui ne trinquons pas sur les places branchées, qui s'y fond dans le vent notre fragilité. Nous marcherons mille autres lunes, mille autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons mille autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume. Nous marcherons mille autres lunes, mille autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons mille autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À vous de l'autre côté du mur ou de la mer, dans des villes assiégées, le sang et la poussière. À vous sans la parole, à vous le ventre vide, dans l'humiliation, à vous le cœur solide. À vous derrière les grilles, sous les bombardements, à vous dans la noyade, à vous les dissidents. À vous dans l'injustice, à vous sous les verrous, à vos filles, à vos fils, à vous, à vous, à vous.
À nous, c'était Noé Pressoff sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui respecte le confinement à la règle, un peu moins la loi Évin.
Oula,
oula, la faute à notre expert gastronomique, Olivier Pousse, poète belge retranché à la campagne dans un village près d'une église dont les cloches suscitent en lui un recueillement spirituel assez inédit.
Le midi sonne l'Angélus, là, c'est le signal du départ de l'apéro, c'est quand les cloches sonnent en fait. Et l'avantage, c'est que les cloches sonnent aussi toutes les demi-heures.
Mais tous les experts le disent, en confinement, c'est un important d'avoir des points de repère. Bonjour, oh là Olivier Pousse.
Bonjour, mes amis. Bonjour.
Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Qu'est-ce qu'on va faire de vous?
Frère Pousse, chaque jour de la semaine, vous nous proposez une destination culinaire pour nous évader un petit peu par l'esprit et par les papilles.
C'est l'Inde aujourd'hui. Oui. C'est l'Inde. Vous aviez promis l'Inde avec le curry.
J'ai même pas le temps de finir la question qu'elle est déjà excitée.
J'étais impatiente.
Eh bien
ouais.
Oui, c'est l'Inde, comme vous dites, Eva.
J'en vois qu'il y en a qui suivent vraiment bien. Merci Eva, bravo. Alors oui, le curry. Alors, question à l'apéro, tiens. Qu'est-ce que c'est le curry?
Ah, c'est plein d'épices, en fait, c'est ça?
Voilà, un mélange d'au moins une dizaine d'épices. Alors, est-ce que vous en connaissez quelques-unes qui rentrent dans la composition, justement? Alors, il y en a plein des curry, évidemment.
Il y a du curcuma de mémoire.
Voilà, exactement. Curcuma, alors, oui. Le curcuma, c'est la base, c'est ce qui donne la couleur jaune, oh, d'ailleurs, ouais, à l'épice. Alors, après, on va y trouver du gingembre, du piment, alors en plus ou moins grande quantité, c'est ce qui donne le côté piquant ou pas, des graines de coriandre, de moutarde, de fenouil, de l'oignon séché, de l'ail, parfois de la cardamome.
Je vous interromps, Olivier, j'entends les cloches. C'est le moment de boire un petit verre.
Ben, ça y est.
Je crois que il faut pas déroger à votre rythme. Hein.
Bon ben je vous dis au revoir alors.
Non, allez, comment on cuisine ce curry?
Voilà, je vais quand même vous donner quelques idées de recettes avec le curry. Alors, ce qui est fantastique avec le curry, c'est que c'est vraiment un arrangeur de cuisine, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand on a un plat un peu terne, quand on a un truc qui a pas tellement de goût, paf, une petite pincée de curry. Et en général, c'est vrai que ça réveille les ingrédients. Alors, par exemple, quand on a quelques légumes un peu tristounets dont on ne sait que faire. Vous imaginez des poireaux, des carottes, des courgettes, un chou-fleur, un oignon et puis peut-être une pomme qui traîne. Eh bien, on peut se dire qu'on pourrait rassembler tout ça et y rajouter une belle quantité de curry. Alors, on va détailler les légumes en petits morceaux, on va les faire revenir dans un petit peu de matière grasse. On va mettre le curry de manière à bien les imprégner. On rajoute une pomme, effectivement, parce que la pomme, avec l'acidité et le curry, ça marche très bien. Et puis, on va rajouter un peu de concentré de tomate et on va mouiller avec un petit bouillon de volaille. On va laisser cuire ça pendant 20 minutes et on aura un délicieux curry de légumes qu'on peut accompagner avec du riz, tout simplement. Et puis, s'il vous reste, pourquoi pas, du poulet, des petits morceaux de poulet, ben, on va les faire sauter. Une pincée de curry. Si vous avez la chance d'avoir un petit peu de lait de coco avec ça, c'est magnifique. Là aussi, vous laissez infuser et cuire tout ça pendant quelques minutes. Et si vous n'avez pas de lait de coco, vous pouvez mettre un yaourt. Ça marche très bien aussi, le mélange curry-yaourt.
Et Olivier, juste une question, parce que moi, ce que j'aime bien prendre au restaurant thaïlandais, c'est le curry vert. Et comment on fait
c'est
le, curry
bon,
vert
le curry vert.
Alors, le curry vert, c'est une... Là, il faut acheter la pâte à curry verte, qui est, un autre mélange d'épices. Et donc là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est probablement assez difficile. Alors que dans toutes les moyennes ou grandes surfaces, au rayon épices, on va trouver des mélanges de curry plus ou moins forts. Le curry vert, là, franchement, il va falloir que vous attendiez le déconfinement pour aller manger dans votre restaurant préféré. C'est quand même un petit peu plus compliqué. Et alors, pour demain, je vous invite à me proposer le pays dans lequel vous avez envie d'aller vous balader.
C'est au choix.
Oui, c'est au choix. Envoyez-moi un petit message sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Et puis, je vous fais une recette ou une petite promenade dans un pays qui vous tient à cœur. Vous pouvez jouer.
À Rabat, en Algérie. Ah, c'était une vanne, c'est pas grave.
Très bonne vanne, des Baroques de Paris.
Merci
beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve donc demain et tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Barrette à 11h.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Une 30e édition confinée de l'équipe est sauvage se termine. On était ravis d'avoir tout à l'heure en ligne avec nous Melra Bedia, qui avait été notre dernière invitée en studio avant le confinement avec Alison Wheeler. Même si rétrospectivement, on se dit qu'à l'époque, on n'avait encore rien compris aux mesures de distanciation sociale. Axel de Tarlet, totalement émoustillé par Alison Wheeler, s'est entécrié en déboutonnant sa chemise.
Perdre, gagner, je m'en fous. Malgré le coronavirus, je peux vous faire la bise.
Oh là là.
Et ben voilà.
Un autre monde.
Voilà le patient zéro. Autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, c'est bel et bien à distance, calfeutré chez eux, que les journalistes d'Europe 1 se sont tirés la bourre. Qui sera élu chroniqueur du jour? C'est l'heure du kit double. Ils ont chacun 10 secondes pour plaider leur dossier. Axel de Tarlet, pourquoi devrions-nous voter pour vous cet après-midi?
Eh bien écoutez, je sais que l'équipe est sauvage est une émission d'un certain standing et donc je ne doute pas que le jury saura faire le tri entre une brillante analyse géostratégique sur notre rapport à la Chine et une chronique sur une start-up allemande qui a inventé un lave-fesses.
Oh, voilà, c'est terrible.
Avec tout le respect que j'ai pour Hélène Cole.
Bien joué. Justement, Hélène Cole, pourquoi devrions-nous plutôt voter pour vous et le lave-popotin?
Alors, je vous ai parlé d'un produit qui concerne tout le monde, 7,5 milliards d'utilisateurs potentiels et en plus ça fait du bien à la planète. Et puis prouvez-moi qu'on peut mettre des points quand même sur les sujets allemands et qu'il n'y a pas que la Thaïlande qui vous intéresse.
C'est pas mal.
C'est un défi.
Argument. Ouais.
Emmanuel Dutheil, pourquoi voter pour vous et votre passion pour le sans contact?
Parce que si je perds aujourd'hui, je menace de revenir demain et encore après-demain et encore après-demain et donc encore de nous abreuver de chiffres économiques qui vous fatiguent.
Il s'ennuie en Vendée dans son bled. Anissa Mbida, pourquoi voter pour vous cet après-midi?
Parce que je ne vous ai pas fait une chronique mais deux et qu'en plus je vous ai donné des bonnes nouvelles et même dézinguer des fake news. C'est un petit point ça, non?
Alors, en ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui.
Oh là là.
C'est dur, mais pour moi, ce n'est pas dur. Parce que quand même, je trouve qu'aujourd'hui, il a vraiment bossé. J'ai envie de dire, pour une fois, Axel de Tarlet, vous avez mon point. Cette chronique géostratégique était quand même extrêmement bien tournée. Je ne sais pas si elle était exclusive pour notre émission ou si vous l'avez déjà fourguée dans un autre magazine ou que sais-je.
Oh.
En tout cas, c'était un très bon papier. Un point.
Il a un peu recyclé sa chronique de ce matin.
Ça y est, ça Emmanuel Dutheil qui
voit. Un point pour Axel de Tarlet. Je ferme les yeux là-dessus. Eva.
Alors moi, j'ai adoré les deux chroniques écho et celle d'Anissa. Mais j'ai une faiblesse pour Hélène Cole. Enfin, vraiment, l'histoire de la douchette m'a ravie. Donc, un point pour Hélène.
Ah, donc on peut imaginer que vous soyez parmi les acheteurs de cette douchette à fesses, c'est Maroc.
Non,
si. Bah si, ça permettrait aux auditeurs de vous visualiser dans une posture
merci,
comique.
Merci, Mathieu.
Et ça fait du bien.
Merci beaucoup, j'avais besoin
de
ça.
De confinement. Notre réalisateur Romain Causer vote lui aussi. Romain, pour qui votez-vous ce soir?
Mathieu, je vais donner mon point à l'excellent Emmanuel Dutheil.
Voilà.
Emmanuel Dutheil qui ne repartira pas bredouille aujourd'hui. Mais ce sont évidemment les auditeurs qui vont trancher. Eva Rock,
vous êtes prêts?
Ont-ils élu?
Ils ont élu Axel de Tarlet.
Oh!
Quel grand gagnant aujourd'hui!
Victoire du Dauphin d'Or!
On l'a perdu, il répond même plus.
Il s'est évanoui d'émotion.
Le talent qui paye. J'ai eu peur que ce soit Anissé qui gagne, sinon ça aurait fait un peu l'école des fans, vous savez, tout le monde a gagné.
Non, c'est vous.
Non, c'est vous, Axel.
C'est
le talent
et
qui triomphe.
Vous seul, Axel.
Ouais,
le talent a parlé, les auditeurs ne se trompent jamais. C'était la 155e journée de l'équipe est sauvage. Je remercie mes confinés du jour.
Eva Rock, Hélène Cole, Anis Mbidak, Seldé Tarlé, Emmanuel Duteil et Olivier Pouls. Romain Causeur et Rémi Duprat en régie, mes télétravailleurs de l'ombre, Philippe Amardaï, Claire Dutronc, Oriana Lévy et Sébastien Bordenave. L'équipe Sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.